Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi, c'est le quart d'heure américain. Et nous retrouvons donc notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous au rapport pour évoquer... Donald Trump et les marchés. C'est-à-dire qu'on a vu encore ce week-end Scott Bessent, secrétaire du Trésor, balayer d'un revers de main la correction du marché américain. C'est vrai que le S&P 500 a baissé de 10% en 16 séances entre le 19 février et le 13 mars. Est-ce qu'on peut balayer aussi facilement que ça une baisse de marché de 10% sur les marchés américains au cours de ce premier trimestre 2025, Pierre-Yves?
Et quand on s'appelle Scott Bessent et qu'on est secrétaire au Trésor, on peut le faire. Quand on s'appelle Scott Bessent et qu'on est gérant de fonds spéculatifs, ce qui était son cas il y a encore quelques semaines, c'est plus difficile. On s'est aperçu que quand même il y a de grands noms des hedge funds qui ont pris quelques gifles au cours des dernières semaines. Et on est amené à se poser la question de l'importance des ménages américains les plus riches dans les dépenses de consommation dans le contexte d'un effet richesse qui se retourne. L'effet richesse, il est simple à comprendre, on peut le rappeler rapidement. Quand l'économie va bien et que les perspectives de profit des entreprises augmentent, eh bien la bourse grimpe, les actionnaires sont de plus en plus riches et dépensent de plus en plus. Dans une économie qui s'inverse, le phénomène part de l'autre côté. Seulement, voilà, les États-Unis sont une économie extrêmement financiarisée. La proportion d'actifs financiers investis en actions aux États-Unis est à un niveau record de 43%. Et quand on accuse un coup d'accordéon de moins 10% en quelques semaines, il y a forcément un impact sur la propension des Américains les plus riches à consommer. J'ai quelques chiffres qui m'ont d'ailleurs surpris. Les 10% des Américains les plus riches aujourd'hui représentent 50% des dépenses de consommation. Et on l'a vu ce matin avec la publication des chiffres des ventes de détail aux États-Unis pour le mois de février que le gain est maigre, il est de 0,2% seulement. Et une des multiples explications de cette performance maigrichonne est probablement l'effet richesse à l'envers qui s'est opéré au cours des dernières semaines. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette économie américaine qui faiblit, où l'incertitude en raison de la politique incroyablement agressive et changeante et imprévisible de Donald Trump en matière commerciale est en train de suspendre les perspectives d'investissement, pas simplement d'investissement financier, mais d'investissement industriel. Qu'est-ce qui va se passer si on approche de la récession? Eh bien, en gros, ce que nous disent les économistes, c'est que une baisse de Wall Street de 20% se traduirait par 1% de croissance en moins pour les États-Unis, et 1%, ça peut faire la différence entre un atterrissage en douceur et une récession.
Et très très clair, hein. On voit des enquêtes de morale de consommateurs qui n'arrêtent pas de baisser, et on l'a vu avec l'Université du Michigan vendredi, des anticipations d'inflation chez les consommateurs, chez les ménages américains qui sont repartis violemment à la hausse sur le mois de février. Si on regarde désormais la sphère corporate, les entreprises américaines et notamment les industriels américains, Pierre-Yves, est-ce qu'ils ont voté pour les droits de douane?
C'est ça qui est stupéfiant, c'est qu'il n'y a pas de lobby patronal américain demandeur de protectionnisme aux États-Unis. Le secteur de la sidérurgie est une exception, mais j'étais absolument frappé par le ton adopté par le patron de Alcoa, le géant américain et canadien, c'est vrai, de l'aluminium, qui affirme que en dépit d'une augmentation de 25% des droits de douane de l'aluminium, on va, dit-il, assister à une réduction de l'emploi dans l'industrie de l'aluminium aux États-Unis. D'après lui, la réaction en chaîne qui va être déclenchée par l'augmentation des prix de l'aluminium est net-net négative pour l'emploi dans l'aluminium. C'est quand même une affirmation assez forte. Il prédit même quelque chose comme 20 000 suppressions net d'emplois dans son propre secteur. Pourquoi ? Parce que d'abord, le prix de l'aluminium va augmenter et toutes les industries intermédiaires qui sont consommatrices d'aluminium vont souffrir. Et ça, ce n'est pas bon pour la demande, ce n'est pas bon pour les marges des entreprises et ce n'est pas bon, in fine, pour l'emploi. Des industriels gros consommateurs d'aluminium, ce sont l'industrie automobile, l'électroménager et le secteur des boissons, car les boîtes de Coca-Cola et de bière que vous aimez boire quand vous n'êtes plus sur le plateau, sont en aluminium. Ouais. Eh bien, ces gens-là ne sont pas du tout contents et sont absolument convaincus que cette augmentation de droits de douane sur l'aluminium est une véritable catastrophe pour le consommateur américain. Et puis, il y a des effets qui, visiblement, ne sont pas pris en compte par la Maison-Blanche dans ses déclarations et sa politique commerciale très brutale. C'est que les Mexicains et les Canadiens, qui sont les gros fournisseurs d'aluminium aux États-Unis, vont être probablement contraints d'envoyer vers l'Europe leur surplus qu'ils ne pourront plus passer aux États-Unis. Ça veut dire une baisse du prix de l'aluminium en Europe. Alors c'est une mauvaise nouvelle peut-être pour les Européens de l'aluminium, mais c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs américains. Et on va avoir une situation où on aura des consommateurs américains et une économie américaine défavorisée par des hausses de prix et le contraire en Europe. Et je reviens à la déclaration du patron d'Alcoa, qui tout de même est une autorité en matière d'investissement industriel, qui nous dit, vous savez, nos décisions d'investissement dans des équipements pour fabriquer de l'aluminium, elles sont prises sur un horizon 20 à 40 ans. Nous ne disposons pas aujourd'hui chez Alcoa de capacité de production que nous pouvons augmenter pour répondre au changement de la demande. Les capacités de production non utilisées dont nous disposons aujourd'hui ne sont pas productives, elles ne sont pas bonnes, et ce n'est pas sur la base de droits de douane qui ne dureront peut-être pas plus que 3 ans, si un autre président que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, que nous allons nous engager sur 20 à 40 ans. Donc cette affaire de droits de douane, rien que sur ce secteur très précis de l'aluminium, n'est pas du tout évident et ne fait pas l'objet d'une demande de protectionnisme de la part des industriels américains. C'est quand même très stupéfiant.
Est-ce que Corporate America, est-ce que les grands patrons américains, les grands CEO, alors de l'industrie, de l'aluminium et de l'acier, mais également peut-être de l'industrie de la technologie, Pierre-Yves, est-ce qu'ils pourront être à un moment les garde-fous, si nécessaire, de la politique visée et conduite par Donald Trump? Est-ce qu'on attend des réactions de leur part? Sur l'automobile, je pense qu'à Détroit, ils se sont déjà un peu mobilisés quand Donald Trump menace toujours de mettre des tarifs de 25% sur les automobiles qui traversent la frontière entre le Mexique et les États-Unis, entre le Canada et les États-Unis. Mais est-ce que le vrai rempart viendra de Corporate America?
Alors, je donnerai deux réponses. La première, il y a des gens au sein de l'industrie automobile américaine qui sont plutôt contents des impositions de droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium. Ce ne sont pas les dirigeants d'entreprise, mais c'est le syndicat des ouvriers automobiles. Qui est très à gauche, qui a fait campagne contre Donald Trump. Et maintenant, M. Fain n'a que des compliments à adresser à la Maison-Blanche parce qu'il est absolument convaincu que Donald Trump est en train de tenir ses promesses. Ne l'oublions pas, Donald Trump a gagné parce qu'il a fait tomber le fameux mur bleu, the blue wall, du Michigan, du Wisconsin. Et l'ouvrier automobile américain moyen, lui, il est plutôt satisfait de voir qu'il va se sentir protégé. C'est à mon avis une erreur qu'il commet, mais c'est une chose. Autre réponse que je voudrais essayer de vous apporter, c'est que les patrons américains ne voient pas que la politique commerciale de Donald Trump. Il y a tout un autre aspect de la politique économique de Donald Trump qui est très important pour eux et qui peut être potentiellement extrêmement favorable, la déréglementation et les baisses d'impôts. Et pour ne pas se couper d'un Donald Trump qui est assez susceptible et qui se fait vite des amis et vite des ennemis et prompt à renier ses amis d'hier, nombre de ces grands patrons qui se sont affichés avec Donald Trump au cours des dernières semaines restent convaincus qu'en dehors de cet horrible petit détail qu'est la politique économique commerciale qui risque de plonger les États-Unis en récession, en termes de fiscalité et en termes de déréglementation, ils ont beaucoup à gagner de cette politique trumpiste.
Donc il y a effectivement un retour attendu et c'est, j'allais dire, ces entreprises-là ou ces patrons-là peuvent souffrir quelques baisses de leurs cours boursiers pendant quelques semaines pour revenir effectivement à l'idée que cette administration Trump, pour l'instant, n'est beaucoup moins sensible à la baisse des marchés que ce qu'on aurait pu imaginer et ce que Donald Trump 1.0 peut-être pouvait l'être de son côté. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugain, correspondant américain de Be Smart for Change, avec nous chaque lundi dans le quart d'heure américain de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay chaque semaine sur bismart.fr.